Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe sans vous déprimer, grâce notamment au talent d'ambianceuse de Céline Dacosta.
Copain.
2 heures de bonne humeur, certes, mais aussi d'éclairage journalistique pertinent, de points de vue engagés et argumentés, comme nous le prouve chaque matin Eva Roque.
Le président Bouteflika confirme sa candidature à un nouveau mandat, tout en promettant de ne pas aller à son terme.
Ça sert à rien.
Heureusement, debout les copains, c'est aussi Fabrice Delmeda. Le monsieur histoire d'Europe 1 qui ce matin, à l'heure où l'Académie française s'ouvre enfin à la féminisation des noms, revient justement sur l'histoire des femmes sous la coupole. Ce sera juste après le journal d'une femme immortelle dans mon cœur, Céline Kallmann, que j'ai retrouvée hier après une semaine de vacances.
Alors, je t'ai pas trop manqué.
D'après toi.
Merci d'écouter Europe 1 ce mardi 5 mars. Et bienvenue à tous, il est 6h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce mardi 5 mars 2000. Bonjour donc Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
Carlos Ghosn pourrait bien sortir de prison très rapidement. Le tribunal de Tokyo a accepté sa troisième demande de mise en liberté, caution fixée à 8 millions d'euros. Nous serons avec notre correspondant au Japon dès le début de ce journal. Emmanuel Macron donne le ton de sa campagne européenne dans une tribune traduite dans toute l'Europe. Le président français propose notamment la remise à plat de l'espace Schengen. Du cannabis thérapeutique pour tenter de soigner la maladie de Parkinson. L'expérience va bientôt être menée à l'hôpital de la Timone à Marseille. Une première mondiale.
Europe 1.
Carlos Ghosn pourrait donc bien sortir de prison très rapidement. Prochainement, 3 mois qu'il est derrière les barreaux au Japon, inculpé de fausses déclarations de revenus notamment. Bonjour Régis Arnaud, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tokyo. On l'a donc appris cette nuit, le tribunal a accepté la demande de mise en liberté sous caution de l'ancien PDG de Renault-Nissan.
Absolument, le tribunal de Tokyo vient d'accepter la demande de libération conditionnelle présentée par ses avocats. C'est une assez grande surprise. Certes, ses avocats hier expliquaient que ils attendaient une libération très prochainement, sans avoir précisé la date, mais que le tribunal de Tokyo accepte est tout de même une grande surprise et une grande victoire pour Carlos Ghosn. En général, une mise en examen au Japon n'est pas libéré sous caution avant ce qu'on appelle la phase des conférences préliminaires qui préparent le procès, surtout quand le mise en examen plaide non coupable, et cette fois le juge a accepté cette demande. Ça veut dire que Carlos Ghosn a d'assez fortes chances de sortir prochainement. Un recours a été déposé devant la cour d'appel de Tokyo et la cour d'appel doit se prononcer, doit confirmer ou rejeter cette demande en dernier ressort. Mais les chances que la cour d'appel accepte cette demande sont plus élevées que l'inverse. Donc on peut s'attendre à ce que Carlos Ghosn sorte très prochainement de la prison de Kosuge et vive librement dans l'attente de son procès.
Merci Régis Arnaud, correspondant d'Europe 1 au Japon. Jet de boules de pétanque, de pavés, d'une dizaine de cocktails Molotov, nouvelle violence jusque tard hier soir dans le quartier Mistral à Grenoble entre des jeunes et les forces de l'ordre. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, un fourgon de sapeurs-pompiers qui intervenait pour éteindre un incendie a même été visé par 3 cocktails Molotov lancés depuis un immeuble. Le décès samedi de 2 jeunes de 17 et 19 ans a déclenché ces tensions. Suivi par une voiture de police, ils auraient percuté un car. Le procureur de Grenoble a ouvert hier une information judiciaire pour recherche des causes de la mort.
Emmanuel Macron donne le ton de sa campagne dans une lettre adressée aux citoyens européens.
Oui, une tribune traduite dans toute l'Europe et publiée donc dans 28 pays. Le chef de l'État appelle à une renaissance européenne. Il prône une dizaine de mesures concrètes. Jean-Rémy Baudou.
Le texte est concis, mais le message est direct. Il y a urgence, écrit Emmanuel Macron. À quelques semaines du Brexit et alors que l'Europe est malmenée par les nationalistes, le président français se pose en défenseur de l'Union. Il propose par exemple de revoir l'espace Schengen où circulent citoyens, capitaux et marchandises. Il faut selon lui une protection, je cite, des valeurs et des frontières face aux migrations, avec notamment une police commune aux frontières. Côté environnement, Emmanuel Macron veut une banque du climat pour financer la transition écologique. Il prône un salaire minimum européen, une préférence européenne pour le business ou encore l'interdiction du financement des partis par des puissances étrangères. Des idées pour relancer le projet commun, mais surtout pour lancer les européennes. Ça va alimenter la campagne, me confiait hier soir l'un des auteurs du texte. La République En Marche devrait largement s'en inspirer pour son programme européen.
Jean-Rémy Baudot, plan social lancé à l'usine Ford de Blanquefort. La direction du travail donne son feu vert. 850 salariés sont concernés. Plus d'une tonne d'armes, dont du matériel de guerre, découvert dans la région de Carcassonne. Un atelier de reconditionnement d'armes importé par un réseau depuis l'étranger a aussi été découvert. Les armes étaient remises en état. Les investigations ont permis d'établir des ramifications internationales en Europe et aux États-Unis. Trois hommes ont été mis en examen, deux d'entre eux placés en détention provisoire.
Une première mondiale à Marseille. D'ici quelques mois, du cannabis va être utilisé pour tenter de traiter la maladie de Parkinson.
Oui, aucune étude n'a jamais été menée avec ce traitement, étude financée en partie par l'association France Parkinson. Peut-être une prochaine étape vers l'utilisation du cannabis thérapeutique en France. Ça se fait déjà dans certains pays en Europe. Des centaines de milliers de patients pourraient être un jour concernés par ce genre de traitement. Nathalie Chevance.
Ils ont une soixantaine d'années, souffrent de la maladie de Parkinson et pour se soulager, ils n'hésitent pas à se procurer du cannabis en toute illégalité, sans aucun cadre médical. Pour la première fois, une vingtaine de volontaires vont donc participer à cette étude clinique, inhaler du cannabis dans le service du professeur Blin à l'hôpital de la Timone, à l'aide d'un nébulisateur. L'opération se déroulera en une seule fois, avec hospitalisation pendant 24 heures, le but étant de mesurer le rapport entre le bénéfice et le risque d'une telle pratique thérapeutique.
On veut déjà quantifier ce bénéfice, à la fois sur les signes moteurs de la maladie, la marche, le tremblement, mais aussi les signes non moteurs, l'anxiété, la dépression, le comportement, la mémoire. Donc c'est ça qui va être important à déterminer. Et on sait aussi que le cannabis peut entraîner des troubles psychiques. Donc il faut absolument être sûr dans la population des patients parkinsoniens que l'utilisation du cannabis améliore certains symptômes sans en aggraver les autres. Il n'existe pas de données sérieuses et bien construites sur le sujet au niveau mondial. C'est ce que nous allons faire pour la première fois en France, ici à Marseille.
Et ils sont des milliers de malades à attendre avec impatience les résultats de cette étude. Si elle est concluante, l'autorisation du cannabis médical ira sans doute très vite. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
On l'apprend ce matin, deuxième cas mondial de rémission d'un patient atteint du VIH, virus à l'origine du sida. La personne a interrompu son traitement et est probablement guérie. C'est ce que doivent annoncer des chercheurs lors d'une conférence médicale aujourd'hui.
Depuis hier, la chasse aux rats est lancée en région parisienne.
Et oui, chaque année, une opération de ce type est menée compte tenu de la prolifération des rongeurs. Elle va durer deux fois plus longtemps que les années précédentes. À la préfecture de police, Bruno Lassalle est chargé de superviser les opérations. Il donne quelques conseils.
Évidemment, si possible, descendre à la cave et s'assurer qu'il n'y ait pas de communication avec les égouts. C'est vraiment la voie d'accès des rongeurs, des rats dans les immeubles. Allez voir dans vos caves, essayez de trouver les canalisations et donc assurez-vous de l'étanchéité. On peut avoir de magnifiques immeubles extrêmement bien entretenus dans des quartiers magnifiques avec des caves en très mauvais état. Lorsque les agents de notre unité intervenaient, en gros, dans 10-15% des cas, ils trouvaient des rats. Ça a augmenté un peu en 2017 et en 2018, une fois sur quatre, ils trouvaient des rats. S'il y a de la nourriture en surface ou s'il y a des déchets en surface, bah, ils ont tout intérêt à y remonter. S'il n'y avait rien à manger, ils resteraient dans les égouts.
Bruno Lassalle avec Clément Paulin pour Europe 1. La fin aujourd'hui de la première Fashion Week à Paris avec la présentation de l'ultime collection Chanel dessinée par Karl Lagerfeld. Ce défilé sera aussi un baptême du feu pour Virginie Viard qui lui a succédé comme directrice artistique de la marque. Et puis il avait rendu le prénom Dylan populaire en France, Luc Perry, le beau gosse de Beverly Hills, connu donc pour son rôle de Dylan dans la série, est mort des suites d'un AVC à l'âge de 52 ans.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann, une journaliste qui, quoique très professionnelle, a su garder sa candeur d'enfant quand, par exemple, Nikos Aliagas lui raconte qu'il photographie la Lune.
Comment tu fais les photos de la Lune?
J'ai un gros truc, en fait. Un peu lourd, d'ailleurs. Hein. C'est un 600 mm, c'est très lourd.
Mais attends...
T'en mets un 1000, tu es sur la Lune.
Incroyable!
À ma fenêtre, à 2h du match, je te jure, tac.
Mais attends, et si tu fais ça sur autre chose que la Lune?
Tout de suite, les idées salaces. C'était Céline Kallmann.
Il est 6h08, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique. Le fact-checking par l'histoire. Et ce matin, alors que l'Académie française reconnaît enfin la féminisation des noms de métiers, grades, titres et fonctions, Fabrice Dalméda revient sur l'histoire des femmes sous la coupole.
Il est 6h09, Mathieu Noël.
Et on fait un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Un peu de soleil pour la moitié sud aujourd'hui.
Oui, on commence par les bonnes nouvelles. Hein. Surtout cet après-midi, le soleil de l'Aquitaine à la région Rhône-Alpes. Il sera assez présent avec un petit peu de vent hein, près de la Méditerranée. Et puis sur les Caps Corses, on en aura d'ailleurs toute la journée. Du vent, on en aura aussi sur la la moitié nord, 50 km/h en rafale. Cet après-midi, 70 dans le nord-est. Ce matin, c'est surtout sur les côtes de la Manche qu'il souffle. Le tout sous un ciel moins clément que sur la moitié sud, hein, puisqu'on aura des nuages et des averses ponctuelles. Les températures un peu fraîches ce matin, elles iront de 11 à 17 degrés du nord au sud en moyenne pour cet après-midi.
Merci Céline. Eva Rock.
C'est l'anniversaire de MC Solar. Claude MC Solar, 50 ans. À cette occasion, on vous demande depuis 5 heures ce matin si vous écoutez du rap, qui sont vos rappeurs préférés. Eh bien, Mister Nobody nous dit « J'ai découvert le rap par le rap français avec IAM et NTM dans les années 90. S'en sont suivis MC Solar, Funky Family. Et il a découvert l'histoire du rap américain grâce à Hip Hop Evolution. C'est sur Netflix, c'est une série. Et puis, on a eu un petit rap. C'est de Daki Homo Micro. Le rap, c'est pas du tout ma cam. Je préfère un son qui a plus d'âme. Balance un bon.
Allez, me fait rire.
Balance un bon rock ou de la soul à coup sûr. Je perds la boule. Yo.
Ouais.
Ils sont sympas, les auditeurs.
C'est le feu dans le studio. C'est le feu. On pourrait faire un battle aussi après. Enfin, j'ai plein d'idées qui me viennent, mais pas pour tout de suite. Merci, Eva.
Europe 1. 5h, 7h, Mathieu Noël.
C'est un pigeon, je suis désolée.
Et puis là, vous allez voir changement d'ambiance musicale. C'est un journaliste toujours aussi discret, mais un amant de plus en plus voyant qui nous rejoint en studio. En effet, plus ça va et plus Céline Dacosta et Jérôme Lacroix se laissent emporter par ce qu'il convient d'appeler le torrent rageur de la passion. Un torrent fort bruyant qui va finir un jour ou l'autre par alerter quand même leurs conjoints respectifs. Enfin, moi, si j'entendais ma meuf chanter
« Changer de vie,
changer d'amour,
changer d'amour, changer d'envie. »
Ouais, moi je m'inquiéterais quand même pour vos conjoints respectifs parce que là c'est vraiment des appels de phare.
Oh là là.
Voici Jérôme Lacroix pour le journal des sports.
C'est l'effet François Valéry.
L'effet François Valéry, on n'en parle pas assez. À la une du journal des sports, Jérôme, les filles cartonnent.
Pluie de buts hier soir à Tours et sacrée ambiance, vous l'entendez, pour le plus grand bonheur des plus de 11 000 spectateurs. Les bleus du foot, les filles, ont balayé les Uruguayennes 6-0 et il fait du bien ce succès hein, parce qu'on est à 3 mois de l'ouverture du mondial en France et que la semaine dernière, eh bien, ces Françaises, également match de préparation, elles avaient été battues par les Allemandes. Corinne Diacre, sélectionneuse, sent monter la ferveur et elle est bénéfique.
On n'a vraiment pas de pression, on ne peut pas avoir de pression en jouant à domicile, en étant supporté comme on l'a été ce soir. Ça peut être que du positif. On sait par contre que le premier match d'ouverture, oui, là il y aura un enjeu fort. Parce qu'on s'attend à être soutenu, mais je pense que ce qu'on va vivre va être au-delà de ce que l'on peut attendre.
Des propos recueillis par Christophe Lamar. Prochain match de préparation au Mondial. France-Japon le 4 avril et ouverture de cette Coupe du Monde le 7 juin. France-Corée du Sud au Parc des Princes.
Ce soir, côté garçon, c'est Ligue des Champions.
Les premiers huitièmes de finale retour. 21h, Real Madrid, Ajax Amsterdam, victoire madrilène 2-1 à l'aller. Et Dortmund-Tottenham, succès 3-0 des Londoniens à l'aller. Demain, PSG-Manchester United à suivre sur Europe 1. Soirée spéciale dès 20h. Il y a aussi ce soir de la Ligue 1. 19h, Bordeaux-Montpellier, dernier match de la 27e journée.
L'histoire étonnante, Jérôme, d'un faux suspense.
Oui, d'une attente peu banale. Ça concerne Perrine Laffont, notre Française championne olympique de ski de bosse et qui vient de remporter à 20 ans seulement la Coupe du Monde après une ultime victoire samedi au Kazakhstan. Sauf que eh bien, la Fédération internationale de ski ne confirme pas pour l'heure ce succès. Alors l'argument, aucune annonce officielle tant que toutes les compétitions de l'hiver ne sont pas terminées. L'intéressé sourit de cette situation digne du but et conserve un inoxydable enthousiasme.
C'est juste parce que je fais ce que j'aime le plus au monde. Je skie, voilà, je me sens progresser, je voyage, je découvre des nouvelles pistes et ça fait que bah, voilà, ça maintient toujours un peu l'adrénaline, un peu voilà, la motivation.
Perrine Laffont jointe pour Europe 1 par Corinne Boulou. Deux rendez-vous aujourd'hui, 9h tout à l'heure, rugby. Le sélectionneur des Bleus dévoile la composition de l'équipe qui démarrera dimanche le 4e rendez-vous du tournoi des Six Nations en Irlande. Et puis 20h30 en basket, Villeurbanne reçoit Andorre la Vieille pour un quart de finale aller de l'Eurocoupe. C'est la deuxième Coupe d'Europe de la hiérarchie.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Il s'appelle Ash Hall et Martin Compton, britannique, ancien soldat. La guerre en Afghanistan a fait perdre à l'un ses deux jambes, l'autre a été brûlé à 75%. Ils sont aujourd'hui reconvertis en pilotes automobiles au sein d'une équipe avec des véhicules adaptés. Et leur rêve, eh bien, c'est de participer aux 24 heures du Mans, ils l'espèrent, pour 2021. Et ils y croient, motivés notamment par le fait que l'année dernière, d'autres pilotes de leur équipe avaient participé à une course amateur sur le prestigieux circuit de la Sarthe.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et au moment de passer à la chronique histoire de cette matinale, ou devrais-je dire au Dalmédas Show, ce véritable son et lumière qui chaque matin vous éblouit par ses moyens techniques et humains, je voudrais justement aujourd'hui vous entraîner exceptionnellement dans les coulisses de cette méga-production. Voici Fabrice Dalmeda, Behind the Scenes.
Est-ce que vous voulez faire un effet? Alors, et à un moment je vais dire, mais le carnaval de Rio est surtout connu à cause de cela. Il y a de la musique et là vous criez la samba.
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 Copam, Copacabana.
Très bien, ok.
C'est bon Coco. C'est bon Coco, voici Fabrice Dalmeda.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalmeda.
Bonjour à tous.
Alors que...
Mais lui, il est sérieux
très,
au moins, vous voyez.
Il était très beau, ah ben ce
oui,
bonjour à tous.
Il est sérieux, Fabrice.
Alors qu'un rapport préparé par une commission paritaire de l'Académie française préconise pour la première fois la féminisation des noms de métiers. Dites-nous Fabrice, quelle place ont eu les femmes dans cette institution?
Ben, l'Académie est une institution fondée par un cardinal, le duc de Richelieu. On était en 1634. Difficile donc pour les femmes de se faire une place dans ce monde d'emblée, placée sous le signe du masculin, pour une raison simple. L'Église ne reconnaît pas de cardinal le... Alors depuis, les femmes ont tenté différentes méthodes pour accéder à l'Académie. Il y a eu les stratèges, comme Julie Lespinasse, cet auteur du XVIIIe siècle, jouant sur l'amitié des académiciens afin qu'ils changent leur règlement et lui accordent une place. Il y a eu les révolutionnaires qui ont posé leur candidature pour obtenir un vote favorable et faire avancer la cause des femmes. La plus emblématique reste l'ancienne suffragette Louise Weiss. Cette promotrice du vote des femmes dès les années 30 présente deux fois sa candidature en 1975 sans succès. Les temps n'étaient pas encore mûrs pour que les militantes triomphent.
Et c'est Marguerite Yourcenar qui finit par y rentrer.
Ben oui, il a fallu cette géante, l'écrivaine dont le succès était si incontestable qu'elle a pu forcer et obtenir son siège à l'Académie en 1988. Huit l'ont suivi depuis et elles sont cinq à l'ouvrage aujourd'hui. Pourtant, l'Académie tenait bon sur la langue, préservant la tradition des limites de genre. Et voici que maintenant, la féminisation s'est glissée dans leurs recommandations.
Mais justement, pourquoi ?
Ben parce que le rapport sur la question a été préparé de façon paritaire. Deux femmes, Daniel Salnave et Dominique Bonnat, et deux hommes, Jean-Gabriel Debreuil et Michael Edwards, en sont les auteurs. En somme, la féminisation de la société a amené celle de l'Académie. Et la féminisation de l'Académie a permis la reconnaissance de la féminisation des mots. On devine que l'Académie ira toujours plus loin dans la féminisation du langage, à mesure que les femmes y seront plus nombreuses.
Merci beaucoup Fabrice Dalmeda. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures de bonne humeur au cœur de l'actu. Aujourd'hui on célèbre un anniversaire, 60 ans, ça se fête.
Ah le cochon.
Mais non pas vous Eva, le Conseil constitutionnel. Oh. Alain Juppé vient d'y être nommé, mais quel pouvoir détiennent réellement les sages? Ce conseil est-il vraiment neutre, garant de l'état de droit au-dessus des préoccupations politiques? Ou bien est-il un acteur politique à part entière? Décryptage à 6h20 avec un politologue qui parle toujours cash, Olivier Dunamel.
Il est 6h18. Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Surprise pour Carlos Ghosn, le tribunal de Tokyo accepte la mise en liberté sous caution de l'ancien patron de Renault-Nissan. Il est emprisonné depuis plus de 3 mois au Japon pour soupçon de malversation financière. La caution a été fixée à 8 millions d'euros. Dans une tribune adressée aux citoyens d'Europe, Emmanuel Macron formule une série de propositions. Il souhaite notamment la création d'une agence européenne de protection des démocraties, d'un bouclier social européen et aussi d'une banque européenne du climat. Enfin, soirée foot en perspective, en attendant PSG-Manchester demain. Début des matchs retour des 8e de finale de la Ligue des Champions. Ce soir, le Real Madrid reçoit l'Ajax d'Amsterdam et Tottenham se déplace chez le Borussia Dortmund.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 5 mars, mais l'actualité c'est aussi un anniversaire, les 60 ans du Conseil constitutionnel.
Nous te souhaitons un joyeux anniversaire.
Il va être content. Bonjour Olivier Duhamel.
Oui, bonjour Mathieu Noël.
Merci d'être avec nous. Les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent bien. On vous retrouve à 10h tous les samedis dans Mediapolis. Vous êtes politologue, spécialiste du droit constitutionnel. Alors, il y a beaucoup de clichés, peut-être aussi de fantasmes autour de cette institution du Conseil constitutionnel. Quelle est vraiment l'étendue de son pouvoir? Ses membres sont-ils vraiment si sages? Vous allez nous dire, mais d'abord, histoire de planter le décor, pouvez-vous nous rappeler le rôle premier, la mission de ce Conseil créé avec la Ve République?
Quand on l'a créé, il a été baptisé « chien de garde de l'exécutif ». C'est-à-dire que le gouvernement et le président voulaient que les grandes restructurations de nos institutions, le pouvoir donné au gouvernement et au président, ne soient pas mangés par le Parlement. Donc il était là pour surveiller le Parlement et également pour surveiller la régularité des élections. Et puis il a considérablement évolué autour de son histoire avec trois grandes étapes. La première étape, en 71, il a décidé que la Déclaration des droits de l'homme faisait partie de la Constitution. Donc, quand il contrôlait une loi, il la contrôlerait par rapport aux grands droits fondamentaux de la Déclaration. La deuxième étape, c'est en 1974, une révision grâce à Giscard d'Estaing qui donne le pouvoir de saisir le Conseil à l'opposition, à 60 députés ou sénateurs. Et enfin, la troisième, c'est en 2008, la révision Sarkozy qui crée ce qu'on appelle la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, qui permet de un justiciable de mettre en cause des lois anciennes et pas seulement les lois nouvelles. C'était les trois grands changements qui ont fait de lui une sorte de vraie cour constitutionnelle.
Et est-ce qu'il est vraiment neutre, ce Conseil constitutionnel? Est-ce qu'il est au-dessus des préoccupations politiques, comme on peut l'imaginer?
Mais aucune cour n'est vraiment neutre. La neutralité absolue, ça n'existe pas. Ce qui est important, c'est qu'il est dans sa composition pluraliste. C'est-à-dire que ses membres sont nommés par président de la République, président de l'Assemblée, président du Sénat. C'est assez rare que les trois soient de la même orientation politique. Et donc, vous avez des gens qui, à l'origine, viennent plutôt de la gauche, d'autres qui viennent plutôt de la droite. Et ce n'est pas la division principale, la division gauche-droite, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est beaucoup plus, par exemple, des juges qui sont plus conservateurs, des membres du Conseil qui sont plus conservateurs et d'autres qui sont plus progressistes du point de vue du droit, comme à la Cour suprême des États-Unis, comme au tribunal de Karlsruhe en Allemagne. Ça, c'est la première grande distinction. Et la seconde, c'est ceux qui ont plus le souci du réel d'un point de vue politique et ceux qui sont très rigoureux sur le droit.
Est-ce que c'est utile, le Conseil constitutionnel, aujourd'hui? C'est ceux qui le critiquent parlent de super maison de retraite. Est-ce qu'en fait, c'est quand même une institution qui est éminemment utile dans notre vie politique actuelle?
Bah, demandez à votre copain Carlos Ghosn.
Mon copain Carlos Ghosn, je vais lui passer un coup de fil.
Non, mais ce que je veux dire, c'est Carlos Ghosn, en France, jamais quelqu'un aurait pu être laissé aussi longtemps. Pendant sa garde à vue, dans les conditions dans lesquelles ça a été. C'est grâce au Conseil constitutionnel, pour prendre cet exemple simple, que maintenant on a droit à un avocat en garde à vue.
L'actualité.
Bah, c'est utile d'avoir un avocat en garde à vue. C'est pas parce que vous n'avez pas été si souvent en garde à vue, Mathieu Noël,
c'est peut-être pour ça que je m'en rends pas compte. L'actualité du Conseil constitutionnel, c'est aussi la nomination de trois nouveaux membres. L'ancien ministre de l'Agriculture Jacques Mézard, nommé par le président de la République, le sénateur François Pillet, choisi par le président du Sénat, et surtout, bon, on en a beaucoup parlé, Alain Juppé, candidat du président de l'Assemblée nationale. Ce sont des profils de politique et pas de juriste. Ça vous surprend, ça ou
non? Écoutez, ça me choque un peu dans le sens que c'est pas le signe d'une considération extrême pour le monde juridique. Mais en même temps, la seule excuse qu'ont les autorités de nomination, c'est qu'ils remplacent trois politiques. Hein. Ils remplacent Lionel Jospin, Charras et Hyest, qui étaient à l'origine des hommes politiques. Donc, de la même manière, on peut se dire que c'est quand même bizarre de nommer trois hommes dans des temps de parité. Ah. Oui, mais ils remplacent trois hommes, mais il y a des femmes au Conseil constitutionnel.
Et justement, question d'Eva Roque.
Oui, c'était ça ma question, Olivier Duhamel. 82 personnes ont été nommées au Conseil constitutionnel depuis sa création. Le plus souvent, c'est des hommes. Il n'y a aucune femme dans les trois dernières nominations. Ils sont machistes au Conseil constitutionnel?
Mais écoutez, ils l'ont été très longtemps, comme le reste de la société française. Ou comme les matinales d'Europe 1 sont toujours conduites d'abord prioritairement par des mecs, mais ça évolue.
Bien vu.
C'est-à-dire que maintenant, il y a quand même un équilibre relatif entre hommes et femmes au Conseil constitutionnel qui n'existait pas du tout autrefois.
Oui, tout à fait. Et est-ce qu'il y a des juristes actuellement, Olivier Duhamel, qui appellent à une réforme du Conseil constitutionnel dans l'IB du 20 février dernier? Elina Lemaire, qui est juriste, écrivait « Cette réforme passerait par la modification de la composition de l'institution, par un encadrement véritable des procédures de nomination de ses membres, mais aussi par la mise à plat des règles relatives à son fonctionnement ». Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'on doit réformer aujourd'hui le Conseil constitutionnel? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas, notamment la présence de droit de tous les anciens présidents de la République, qui peut poser des problèmes parfois, peut-être des conflits d'intérêts quand ils sont eux-mêmes dans une affaire?
Oui, et puis surtout, ça n'a pas de sens de mettre quelqu'un juste parce qu'il a été président de la République. D'ailleurs, je signale que le général de Gaulle n'y a jamais siégé, François Mitterrand n'y siégeait pas davantage, que François Hollande n'y siège pas. Donc, il y a des présidents qui siègent, d'autres qui ne siègent pas. D'autres qui siègent que quand ils ont envie, comme Valéry Giscard d'Estaing, ce qui n'est pas mieux. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir des anciens présidents au Conseil constitutionnel, ça, c'est certain.
Merci beaucoup, Olivier Duhamel. On rappelle que le podcast que vous avez consacré à la naissance de la Ve République est toujours disponible sur europe1.fr. On vous retrouve évidemment samedi à 10h pour Mediapolis. Merci d'avoir été avec nous.
Europe 1. Il est 6h25, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de Sébastien Krebs. La météo revient. Et comment est le temps aujourd'hui, Céline ?
Plutôt mitigé, avec encore un petit peu de vent.
A tout de suite.
Il est 6h26, Mathieu Noël.
Céline Dacosta, lors d'un point sur la météo avec vous, on commence par des températures avec un peu de fraîcheur ce matin.
Oui, 3 degrés à Millau, 4 à Rouen en ce moment, ainsi qu'à Mulhouse, 5 à Paris, 6 à Bourges, 7 à Lyon, à Caen, 9 à Biarritz et Brest, 10 à Bastia et 13 à Toulon. Cet après-midi, on va gagner quelques degrés par rapport à hier, puisque la moyenne sera de 11 à 14 degrés sur la moitié nord avec 13 à Paris, 13 à 17, ça c'est pour la moitié sud, jusqu'à 19 à Nice et 20 degrés à Biarritz.
Oui Céline, et le ciel lui est variable.
Oui, et le reste sera toute la journée puisqu'on aura des averses pour la moitié nord, nord-ouest du pays. Quelques coups de tonnerre même pour ce matin sur le Pas-de-Calais sont possibles. Un petit peu de vent sur la Bretagne, les côtes de la Manche. Ce vent, on va le retrouver sur toute la moitié nord cet après-midi. Des rafales à 50 km à l'heure, 70 pour le nord-est. Et puis du vent, on en aura également demain sur une grande partie du pays. On va retrouver des rafales entre 60 et 70 km à l'heure à l'intérieur des terres. 100 à 110 km à l'heure sur les Pyrénées, ça c'est pour demain. Et puis encore du vent pour jeudi sur l'ensemble du pays. Là aussi, ça va bien souffler. Voyez, on n'en a pas fini avec le vent. Avec un ciel qui sera toujours mitigé, partagé entre nuages éclaircis, surtout pour la moitié nord. Demain, avec de la pluie.
Merci Céline. À suivre dans une poignée de secondes, le journal de Sébastien Krebs. Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui a reçu 5 sur 5 le message de la direction d'Europe 1 concernant le rajeunissement nécessaire de notre programmation musicale. Il faut se projeter vers les années 2020, nous a-t-on dit en conférence de rédaction. Eh bien, je crois que pour ce qui est de se projeter vers les années 2020, la mission est pleinement réussie, comme on le constatait encore pas plus tard qu'hier matin.
Mais vous êtes fous !
Oh oui !
Benny B, B-E-2-N-Y-B.
Mon nom à moi, c'est Benny B. Oui, tu l'as deviné.
Et oui, le futur est en marche sur Europe 1. Mais en attendant qu'il arrive, que diriez-vous, mesdames, d'un petit journal ?
Oh oui !
Ah, oui.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 présenté par Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui.
Un chiffre, 100 millions de tonnes de plastique finissent chaque année dans la nature. Pollution hors de contrôle, s'alarme le WWF dans un rapport révélé ce matin. Le tribunal de Tokyo avait dit non. Deux fois, il vient de changer d'avis. Carlos Ghosn va pouvoir sortir de prison sous caution, peut-être dès aujourd'hui. Et puis J-1 pour le PSG qui devra confirmer son exploit demain face à Manchester United en 8e de finale de la Ligue des Champions.
Europe 1.
On le retrouve dans la terre et jusqu'au fond des océans, dans les entrailles des crustacés. Le plastique a envahi nos vies, mais menace de plus en plus notre planète. Constat alarmant dressé ce matin par un rapport de l'ONG WWF. Et rien n'est fait pour limiter sa production qui continue d'augmenter. Lors d'Autriche.
300 millions de tonnes de plastique sont générées chaque année, un tiers finit dans la nature et la quantité de plastique dans les océans pourrait doubler dans les 10 ans qui viennent, estiment les scientifiques. Le problème, disent les experts du WWF, c'est que le système est défaillant. Rejeter les déchets plastiques dans la nature coûte moins cher aux entreprises que de réfléchir au recyclage. Et personne n'est aujourd'hui tenu pour responsable, explique Ludovic Frère-Escoffier au WWF.
Aucun système juridique international n'existe pour inculper des entreprises ou des États pour négligence par rapport à l'environnement. Et c'est l'océan qui est aujourd'hui complètement infecté.
La semaine prochaine, lors de l'Assemblée des Nations Unies qui se tiendra au Kenya, les États vont d'ailleurs discuter de la mise en place d'un traité international qui soit juridiquement contraignant avec des objectifs de recyclage du plastique que les les différents pays devront atteindre.
Lord Autriche, spécialiste environnement d'Europe 1. Plus de 100 jours qu'il est derrière les barreaux à l'autre bout du monde. Carlos Ghosn va pouvoir sortir de prison, c'est l'information de la nuit. Le tribunal de Tokyo accepte la remise en liberté de l'ancien patron de Renault, poursuivi pour fraude fiscale. Il devra toutefois verser 8 millions d'euros de caution et aura interdiction de quitter le Japon. Voilà qui va alimenter les conversations dans les allées du prestigieux salon de l'auto de Genève qui ouvre justement après-demain avec... planant là-bas, le fantôme de Carlos Ghosn, Jean-Sébastien Soldaini.
Dans les travées, le stand Renault fait partie des rares à être entièrement caché derrière de grands draps noirs. Entretenir le mystère avant l'intervention de Thierry Bolloré, le successeur de Carlos Ghosn, qui, selon le spécialiste italien Alberto Sabatini, aura fort à faire pour maintenir le groupe au premier rang mondial.
La grande force de Ghosn,
a été de savoir maintenir l'alliance de Renault et Nissan.
Il faudra
un caractère très fort pour faire travailler ces deux marques ensemble à l'avenir. Il est là le grand défi de Renault. Sans ça, ils n'iront pas bien loin.
Tout dépendra des Japonais, dit-il, de leur volonté de rester dans l'alliance. Pas des choix amorcés par Carlos Ghosn sur l'électrique, notamment Flavien Neuvy de l'Observatoire CTLM.
C'est vrai que l'alliance Renault-Nissan avait un coup d'avance en matière de voitures 100% électriques grâce à l'impulsion de Carlos Ghosn avec notamment la sortie de la Zoé. Mais aujourd'hui, ce qui conditionne le futur de la voiture électrique, c'est de savoir si les automobilistes auront envie d'acheter ces voitures.
Mais rares sont les observateurs français qui souhaitent commenter les déboires de Carlos Ghosn et l'avenir de Renault. Pour la plupart d'entre eux, c'est déjà du passé. Avec le très chic salon suisse, le business reprend vite le dessus. Genève, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Et puis toujours dans l'automobile, le sort de l'usine Ford de Blanquefort en Gironde est scellé. Le groupe annonce que l'administration a donné son feu vert au plan de sauvegarde de l'emploi. Sur les 850 salariés, 300 à 400 pourraient être éligibles à la pré-retraite, 400 à 500 licenciés, d'autres reclassés.
Europe 1, il est 6h33.
L'autre grand titre ce matin, c'est cette tribune publiée dans 28 quotidiens européens par Emmanuel Macron, qui lance ainsi la campagne des Européennes. Il prône une renaissance de l'Union et fait une série de propositions, réforme de l'espace Schengen, police des frontières communes ou encore création d'un salaire minimum européen. Le débat est lancé face à ceux qui demandent au contraire moins d'intégration, comme Nicolas Bay au Rassemblement National.
Finalement, il n'y a pas beaucoup de surprises. Emmanuel Macron défend son idée de fédéralisme européen, qu'il appelle souveraineté européenne, qui se substitue à la souveraineté nationale. Ça vise finalement à aller encore plus loin que l'Union européenne actuelle dans l'intégration et donc encore plus loin dans les échecs. C'est exactement l'opposé de ce que nous défendons au Rassemblement national. Et Macron défend en réalité un modèle d'Union européenne, un modèle d'institution européenne qui est totalement daté et qui aujourd'hui est rejeté par les peuples.
Propos recueillis par Justin Morin pour Europe 1. Une troisième nuit de violence à Grenoble après la mort de deux jeunes à scooter. Nouvelles émeutes hier soir dans le quartier Mistral. Des pompiers qui intervenaient pour éteindre un incendie ont été visés par des cocktails Molotov. Selon le Dauphiné libéré, des parpaings étaient jetés depuis le haut des immeubles.
À suivre dans ce journal, le service national universel pour les jeunes. Les candidatures sont ouvertes. À tout de suite.
Il est 6h36, Mathieu Noël.
À la suite du journal, Sébastien Krebs avec le service national universel officiellement lancé.
13 départements pilotes vont expérimenter cette promesse du gouvernement et depuis hier, l'appel à candidature est lancé pour tous les jeunes âgés de 15 à 16 ans. Ils seront 2000 à 3000 à tester ce dispositif qui doit devenir ensuite obligatoire. Jean-Gabriel Bourgeois a rencontré certains d'entre eux dans l'heure avec le secrétaire d'État Gabriel Attal.
40 minutes d'échange dans la salle polyvalente du lycée façon grand débat. 30 élèves assis en cercle autour de Gabriel Attal qui répond à toutes les questions, même celle de Théo sur l'uniforme.
C'est de savoir si on aura des uniformes. Il y aura une tenue commune. L'idée, c'est de fédérer la jeunesse française autour des valeurs et des symboles de la République. Et donc, dans ce contexte-là, en deux semaines, la tenue commune, elle peut permettre de participer à fédérer autour de ces symboles et de ces valeurs.
Les adolescents passeront deux semaines de cohésion dans un autre département et 15 jours de mission d'intérêt général près de chez eux, auprès d'une association. Beaucoup d'enthousiasme chez ces élèves de seconde, impatients de s'engager. Quentin, Jade, Ryan et Antoine voient dans le service national universel une expérience professionnelle et humaine.
Ça nous apporte de la cohésion, l'entraide, sûrement les valeurs militaires, les valeurs de la République en général. Et on aimerait tous aller en
en Guyane.
Découvrir d'autres gens, d'autres horizons.
Qu'est-ce que en pensent tes parents ?
Mes parents, ils trouvent que c'est une bonne idée parce que ça leur fait penser un peu au service militaire.
En plus, ils savent que je suis encadré, donc ils n'ont aucune peur.
Un encadrement tenu notamment par des anciens militaires et des réservistes de l'armée. De quoi rassurer les parents. Évreux, Jean-Gabriel Bourgeois, Europe 1.
Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido est finalement rentré au pays hier sans encombre. Acclamé à l'aéroport par ses partisans, il a immédiatement appelé à de nouvelles manifestations ce samedi contre Nicolas Maduro. Dans un tweet, il remercie la France et d'autres pays qui avaient aussi envoyé leurs ambassadeurs pour tenter de lui éviter une arrestation. J-1, vous avez forcément coché la date, Mathieu.
Demain, évidemment.
Le grand soir au Parc des Princes, 21h.
Je m'invite chez vous d'ailleurs, parce que moi j'ai pas l'abonnement.
Coup d'envoi du match retour PSG, ouais, Manchester.
J'apporte les chips.
Après leur exploit 2-0 à Old Trafford, il y a 3 semaines, les Parisiens vont devoir confirmer. Dernier entraînement prévu aujourd'hui, Julien Froment.
Pas de blessés, une série de 5 victoires d'affilée. Le Paris Saint-Germain a de quoi être serein avant de recevoir Manchester United. Paris, qui n'a plus connu l'ivresse d'un quart de finale de la Ligue des Champions depuis maintenant 3 ans. Humiliation à Barcelone il y a 2 saisons avec la remontada. Frustration contre Madrid l'an passé. Cette saison doit enfin être la bonne. Le défenseur brésilien Marquinhos.
Voilà, c'est la semaine qui arrive. Il faut déjà, de maintenant, il faut que tout le monde pense à ce match important. Et voilà, nous on est à la mi-temps de ces 8e de finale. Et maintenant, nous reste à finir le boulot à la maison. Il faut faire la même chose qu'on a fait là-bas, avec la même intensité, avec la même attitude. Et je pense qu'on peut le faire.
Preuve que tout le monde y croit au Paris Saint-Germain, la présence de Neymar en tribune l'an passé contre Madrid. Il n'était même pas au stade lors de l'élimination des siens. Cette fois-ci, le Brésilien, parti quelques jours au pays pour se soigner, assistera depuis sa loge du Parc des Princes à ce match capital pour le club parisien.
Julien Froment pour Europe 1. Et vous savez quoi, j'ai pas l'abonnement télé non plus, mais on peut suivre le match sur Europe 1 en intégralité demain
soir. C'est encore mieux finalement, comme ça on peut l'imaginer. C'est plus beau. Alors justement, je voulais signaler quand même le niveau général de cette émission qui va à volo, puisqu'on m'a dit en régie à l'instant, hein, et on a trouvé ça rigolo, de me signaler que Sébastien Krebs avait lancé un sujet de Julien Froment et que c'était donc particulièrement drôle. Je salue la régie pour cette initiative comique de bon aloi. Merci, c'était le journal de Sébastien
Krebs.
Je crois que c'est un petit jeu de mots comme ça, assez fin. Tu vois.
Oui.
Si quelqu'un s'était appelé Sarrazin, par exemple. Imaginez.
Ah, on a un auditeur Sarrazin qui s'appelle Olivier Sarrazin.
On l'embrasse.
Ou Nutella.
Voilà, tout ça fonctionne parfaitement. Bon travail, en tout cas, Sébastien Krebs. J'en profite d'ailleurs pour donner, vous en avez compris, pour donner des nouvelles toutes de celui que vous remplacez, le présentateur titulaire du journal de 6h30, David Doucan. Eh bien, que ses fans se rassurent, il n'est pas malade. Celui qu'on surnomme dans la rédac OSS 118 est tout simplement en vacances au sport d'hiver, car comme il le dit si bien,
j'aime la glisse.
Rien que d'entendre sa voix, vos pupilles se dilatent. Céline D'Acosta, ne flanchez pas, dites-nous plutôt quel temps il va faire aujourd'hui.
On aura encore des averses et puis un petit peu de vent, hein, des nuages, surtout sur la moitié nord ce matin. Encore un petit peu de vent. Alors ce matin, c'est sur les côtes de la Manche. Cet après-midi, ça sera sur toute la moitié nord, à l'intérieur des terres, avec des rafales à 50 km à l'heure. Du vent également dans le nord-est, hein, 70 km à l'heure dans le nord-est. Un ciel mitigé, je vous le disais, des nuages, des averses ponctuelles, quelques éclaircies au milieu de tout ça. C'est plus calme et lumineux sur la moitié sud, avec des températures bien douces cet après-midi. 13 à 17 degrés, jusqu'à 20 degrés attendus à Biarritz. Et pour la moitié nord, ce sera 11 à 14 degrés en moyenne, avec 13 à Paris.
Vous ne vous êtes pas trompé cette fois. Merci Céline.
Europe 1.
Vous écoutez Debout les copains, à suivre. Politique, économie, médias, les trois fantastiques sont dans les starting blocks pour vous livrer leur analyse du jour. Au programme notamment les manœuvres des macronistes pour évincer Édouard Philippe et pourquoi, selon notre éditorialiste, Macron doit impérativement garder Philippe. Ça vous intéresse les filles?
Oui.
Bah, tant mieux.
Il est 6h41. Il est 6h43, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Emmanuel Macron en faveur d'une renaissance européenne. Le président lance la campagne des élections du mois de mai en publiant ce matin une tribune dans 28 quotidiens à travers le continent. Il propose notamment de réformer l'espace Schengen avec une police commune des frontières. C'est l'information de la nuit. Carlos Ghosn va pouvoir sortir de prison, peut-être dès aujourd'hui. Le tribunal de Tokyo a autorisé sa libération sous caution avec obligation de rester au Japon. L'ancien patron de Renault était incarcéré depuis 3 mois. Il est poursuivi pour fraude fiscale. Enfin, un nouvel espoir pour les chercheurs dans la lutte contre le virus du sida. Un deuxième cas de rémission a été obtenu. Un patient qui a interrompu son traitement ne montre plus aucun signe du virus, et cela notamment grâce à des transplantations de moelle osseuse.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Ils sont, chacun dans leur domaine, des surdoués. Voici les trois fantastiques. Eva Rock pour les médias, Mickaël Darmon pour la politique et pour l'économie. C'est Emmanuel Duteil qui remplace Axel de Taré. Axel qui, officiellement, est en vacances à Morzine. Officieusement, disons qu'il a décidé de prendre un peu de recul et, disons les mots, de se faire oublier après son incursion de vendredi dernier sur les terres de l'humour. On le sait, le salon de l'agriculture est propice à moult vannes plus ou moins chic. C'est tentant, c'est un véritable piège, même pour des humoristes. Alors imaginez pour un économiste, tout est allé très vite, trop vite pour Axel Lou qui n'a pas eu le temps de se censurer.
Passer du coq à l'âne, c'est pour la poule que c'est dur.
Repose-toi bien, mon Axelou, et reviens-nous en forme. En attendant, nous, on commence par la politique avec vous, Mickaël Darmon. On se ressaisit. L'effervescence gagne les membres du gouvernement qui entendent les signes avant-coureurs d'un remaniement. Par ailleurs, les macronistes du premier cercle souhaiteraient un virage à gauche. Qu'en est-il ?
Eh bien, vous savez, il y a cette information qu'on a lue dans le journal du dimanche. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, ferait partie, avec un autre proche du président, Philippe Grandjean, de ceux qui aimeraient bien voir Jean-Yves Le Drian à Matignon. C'est un petit peu le marronnier du quinquennat. Un conseiller présidentiel et le troisième personnage de l'État, bigre. Autour de Richard Ferrand, bien sûr, on dément cette intention. Ferrand rappelle une excellente relation, bien sûr, avec le Premier ministre. Et l'heure est au grand donc, débat, pas au grand chambardement. Les macronistes de la première heure veulent-ils récupérer Matignon ? Même si ça leur démange depuis longtemps, c'est pas le moment, dit-on, au sommet de la Macronie. À l'Élysée, on précise, on entend en fait plus d'inquiétude sur comment va-t-on sortir de ce grand débat que sur le changement de Premier ministre. Et quand on pousse un peu plus loin l'enquête, eh bien, il y a ce dernier argument. Étonnant et amusant, selon un spécialiste des cartes régionales et bretonnes, Le Drian est de Morbihan, Ferrand du Finistère, et l'un ne peut soutenir l'autre au nom des concurrences régionales, paraît-il.
Quel intérêt aurait Emmanuel Macron à lancer son acte 2 du quinquennat avec un nouveau gouvernement dirigé par Édouard Philippe ?
Et oui, c'est intéressant effectivement de se placer de ce point de vue, hein, celui dans la tête du président, c'est pas anodin. Deux critères pour un président pour bien vivre son couple exécutif, loyauté et tranquillité. Édouard Philippe, effectivement, est loyal au président, pas d'arrière-pensée, hein, ce qui n'empêche pas parfois quelques états d'âme, mais surtout sur l'acte 2 du quinquennat, eh bien, il sera, qui est conçu par Macron, il sera décliné, sauf coup de théâtre, par Édouard Philippe. Le vrai problème sera peut-être le même que lors du dernier remaniement. Plusieurs membres du gouvernement ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils aimeraient bien faire autre chose, et souvent, ce sont des femmes. Donc, il va falloir trouver d'autres personnes pour entrer dans ce gouvernement, et là, on comprendra dans quelle direction ira le président. Ouverture encore à droite ou rééquilibrage à gauche ? Le temps de la coalition avec plusieurs partis qui se préparent en ce moment n'est pas encore arrivé, mais il faut savoir qu'il se prépare. Le prochain remaniement prévu pour remplacer les candidats qui partiraient aux élections pourrait en fait faire office de brouillon avant le projet de la recomposition beaucoup plus large prévu pour beaucoup plus tard.
Merci beaucoup Mickaël Darmon pour cet éclairage politique. On passe à l'économie avec quelqu'un qui voyage beaucoup en car. Il devrait normalement avoir une voiture de fonction vu qu'il est quand même le chef du service politique et économique d'Europe 1. Mais non, il aime le car. Il aime le car. Emmanuel Duteil, ce matin, vous nous parlez des cars Macron. Il va y avoir de moins en moins de concurrence.
Oui, en 2015, au moment de la libéralisation de ce marché, ils étaient 5 acteurs différents au niveau national. Dès l'année d'après, c'est-à-dire dès 2016, hein, c'était pas trop compliqué à trouver, ils n'étaient plus que 3. Et bien là, cette année, ils ne devraient être plus que 2. Flixbus cherche en effet à racheter les fameux cars Eurolinx et Easylinx, ça a été annoncé hier. Au passage, si ce rapprochement va bien au bout, les marques Eurolinx et Easylinx devraient disparaître. Donc, il y a d'un côté l'allemand Flixbus, et de l'autre, on a les ex-Ouibus qui vont devenir Blablabus après leur rachat il y a quelques semaines par le géant du covoiturage Blablacar. Là aussi, vous notez une certaine originalité du côté du marketing et du nom trouvé.
C'est bien trouvé.
Blablabus, c'est dur à dire.
Blablabus, oui, c'est
Blablabus,
vrai.
Blablabus,
c'est moche marrant. En plus.
C'est moche.
Oh non, vous êtes dur, c'est rigolo, c'est sympathique.
Mais ça vous fait penser au bar d'un papa, oui.
Oui, au pays des Blablabus. Ça ne marche pas. Et pourquoi ne sont-ils plus que 2 ?
Eh bien, c'est souvent le cas quand un marché s'ouvre. De nombreux acteurs tentent de se faire une place et au final les plus forts mangent les plus faibles. SNCF et Flixbus ont tout fait pour être les rescapés. Ils ont eu une politique très très agressive sur les prix. Ils étaient prêts, et c'est ce qui leur est arrivé, à perdre beaucoup d'argent pour gagner des parts de marché. Il faut dire que malgré tout, ce marché est très intéressant. Des cars Macron, ça fonctionne plutôt bien. L'an dernier, 9 millions de billets ont été vendus contre 6 millions d'euros en 2016. On peut vraiment parler de succès, tout simplement parce que ces cars répondent à de vrais besoins, notamment pour ceux qui ont du temps et ou assez peu de moyens pour voyager.
Et Emmanuel, est-ce que les prix vont monter du coup ?
Alors c'est vrai que c'est la crainte. Jusque-là, la concurrence acharnée faisait que les prix étaient très bas. Mais bon voilà, aucun acteur ne gagne de l'argent en France. Et ça, inévitablement, ça ne peut pas durer. On peut donc imaginer quand même une petite hausse dans les mois à venir. Mais ça va être léger. Pourquoi ? Eh bien parce que le marché des transports, contrairement à ce que l'on pourrait croire, reste très compétitif en France. Oui, oui. Quand vous voulez voyager, vous avez le choix entre la voiture, les bus, les trains ou l'avion. Jusque-là, je ne vous apprends pas grand-chose. Mais dans tous ces secteurs, il y a de très grosses offres promotionnelles ou des low-cost. Les bus sont par exemple en concurrence directe avec les trains Ouigo de la SNCF ou avec les voitures de Blablacar. Et du coup, les spécialistes estiment que le prix d'un billet de car doit être trois fois inférieur à un prix de train, par exemple Ouigo, pour rester tentant, parce que quand même on y met beaucoup plus de temps. Du côté de Flixbus, on le promet, du coup, un tel rapprochement ne devrait pas trop faire monter les prix.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil. On passe à la télévision avec vous Eva Rock.
Oui, un documentaire intitulé « Religieuse abusée, l'autre scandale de l'Église », c'est à voir sur Arte à 20h55 et c'est le documentaire de ce début d'année. Deux ans d'enquête ont été nécessaires pour comprendre en fait les mécanismes d'emprise physique et psychologique subis par les femmes engagées dans l'Église catholique. Un scandale sexuel de plus, un scandale que la hiérarchie a tenté de cacher au mépris des victimes comme Doris, jeune religieuse entre 2003 et 2011 et abuser sexuellement.
Que l'on puisse me faire du mal, que je doive supporter la douleur, là n'était pas le problème. En revanche, que l'on puisse me priver de ma chasteté, cela m'était inconcevable.
Après des années d'agression, elle a réussi à en parler à sa supérieure et en retour, 3000 euros pour acheter son silence et quitter la vie religieuse. L'enquête rigoureuse montre à quel point ces abus sont loin d'être des cas isolés. Pendant 25 ans, par exemple, Michel France, une religieuse française, a été abusée par deux prêtres, frères. Elle raconte la perversité de ces hommes.
Son explication, sa justification, c'était qu'il voulait me faire sentir l'amour de Jésus pour moi parce qu'il savait, il sentait, il avait éprouvé dans la prière que j'en avais besoin et que c'était ce que Jésus voulait pour moi à travers lui. Il était... C'est une expression qu'il utilisait beaucoup. Il était le petit instrument de Jésus.
Et alors, scène incroyable après ce témoignage que vous pourrez découvrir, l'Église a choisi d'organiser une messe de réparation. Oui, de réparation dans l'assistance des victimes de ces deux prêtres et leurs proches pour une cérémonie au cours de laquelle la hiérarchie présente ses excuses. Et c'est tout. Pas de poursuite judiciaire, ni au sein de l'Église, ni de la part de la justice civile. Vous le verrez, les révélations faites par les deux réalisateurs, Marie-Pierre Rimbaud et Éric Quintin, sont édifiantes. Une enquête qui les a menées notamment en Afrique, où des religieuses sont traitées comme des esclaves sexuelles. Et quand l'une d'entre elles tombe enceinte, les prêtres n'hésitent pas à les faire avorter. Difficile d'imaginer que cette enquête restera sans réponse. C'est à voir sur Arte et c'est à 20h55.
Merci beaucoup Eva Rock pour cette recommandation télé. Merci Emmanuel Duteil, Mickaël Darmon. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain aux alentours de 7h15. Eva, une info dont on se serait volontiers passé.
J'ai le ventre qui gargouille, c'est horrible.
Merci.
Il est 6h51, Mathieu Noël.
Debout les copains ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. Je m'apprête à vous laisser entre les mains expertes de Pierre de Villeneuve pour la matinale d'Europe 1. Mais juste avant de vous quitter, je ne dérogerai pas à la tradition d'un petit débrief, moment festif s'il en est. Or, en matière de fête, nous avons maintes fois démontré dans Debout les copains que nous n'avions rien à envier au carnaval de Rio. Pas vrai les copains ?
Samba ! Mais oui, la samba !
Samba !
La samba !
Ok, ça c'est fait. Spontanéité au rendez-vous.
Le débrief du 7-9 à suivre.
Il est 6h52.
Debout les copains s'achève, mais rassurez-vous, même en l'absence de Nico cette semaine, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Pierre de Villeneuve. Joker de luxe de Nikos, car oui, autant parfois lorsque durant la révision votre concessionnaire vous prête une voiture de remplacement, vous êtes déçu, autant là, non. Villeneuve est un très beau véhicule de courtoisie.
Ça fait penser un peu au Porsche Cayenne, avec le chrome qui dépasse.
Oui, un Porsche Cayenne, ne s'arrangeons pas non plus, Villeneuve. C'est vrai que vous avez rendu une copie quasi parfaite hier, cela dit. Il vous faut encore apprendre un truc, mon vieux, savoir justement décompresser. Là, je vous sens tout tendu. Prenez par exemple l'autre Joker de Nikos, Bernard Parouet. Lui, quand tout roule, il sait savoir.
Maintenant, tout est calé, c'est merveilleux. On y va, on démoule.
Ah, Vino, on n'est pas bien là ? À la fraîche ? Et on stressera quand on aura envie de stresser ? Prenez Céline Dacosta aussi. Croyez qu'elle stresse, Céline ? À quoi croyez-vous qu'elle pensait hier matin pendant que vous aviez à cœur de donner le meilleur de vous-même pour le salut d'Europe 1 ?
Toi aussi, tu dois en avoir plein, toi, te connaissant. Des congés à solder avant fin mai.
Voilà à quoi elle pense, Céline Dacosta. Au retour des vacances, c'est dire. Surtout, Pierre, quand je vous disais, vous avez été excellent. Hein. Vous avez géré les transitions qui n'étaient pas évidentes entre des sujets très distants, très deux salles, deux ambiances.
Eh bien, merci beaucoup à vous, Didier François, à Barouz, en Syrie, à la frontière avec l'Irak. À suivre l'innovation avec Anissé Mbida. Fini les plats qui refroidissent vite grâce aux assiettes qui restent chaudes.
Votre force, réussir à instiller du suspense dans les chroniques qui s'y prêtent le moins, comme la rubrique innovation sur les assiettes chauffantes.
Une sorte de double fond, donc ça fait pas des assiettes trop épaisses ?
Mais ça sent bon le prix Albert Londres tout ça. Le seul point qu'il vous faut encore travailler, Pierre, c'est la druckerisation. Cette empathie de chaque instant pour tout et n'importe quoi. En l'espace de 6 mois, Nico s'est parfaitement druckerisé. À vous maintenant.
Vous êtes tous matin, Martin. Qu'est-ce que j'entends derrière vous ?
Alors là, écoutez, je suis entouré ce matin de milliers de canards. Je me trouve dans une ferme du Gers.
Magnifique.
Bien, je suis au salon de l'agriculture et j'ai sous les yeux des produits que vous ne connaissez pas. Ce sont des produits de Wallis et Futuna.
Ah, magnifique.
Je vous emmène dans une ferme de Saint-Nectaire.
Ah, magnifique. Magnifique, Lynn Renault.
Voilà, c'est ça qu'il faut viser, Pierre. La druckerisation, c'est la dernière étape.
Merci, j'en prends bonne note. Et vous me prêterez votre bon tant pis, là, parce qu'il est absolument formidable.
Il vous plaît, mon bon tant pis.
Oui, j'adore, j'adore. Vous revenez demain, Mathieu ?
Évidemment, Pierre, évidemment.
À demain.
Bonne journée.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.